Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir sur les ondes du Canal M. Nous, c'est en régie Rémi Hermoso à l'animation Franceline Nieuviard. Bonjour Franceline.
Oui, bonjour.
Et Roger Roy. Alors nous sommes là pour vous proposer le volet culture et société du Kiosque Magazine du lundi 2 mars qui semble être annonciateur du printemps. Soyons optimistes.
Oui, soyons optimistes parce que vous entendez ma voix et je crois que j'avais résisté jusque-là, mais cette fois...
Bon, ce sont des restes seulement.
Hein? Ça oui, c'est des restes. Oui, bon.
Comme à l'accoutumée, nous avons des textes intéressants à vous proposer aujourd'hui, n'est-ce pas, Franceline?
Oui, alors le premier texte s'intitule « Professionnels immigrants, à vous la reconnaissance ». C'est dans l'itinéraire de février 2015. Mon deuxième sujet s'intitule « Ah, les secrets de famille » par Jacqueline Simoneau dans « Le bel âge » de mars 2015. Et enfin, « Le Québec ludique et quatre activités à faire pendant la relâche » dans la Presse Plus.
Mm-hmm. Pour ma part, je vais vous parler de propos féministes inspirés par la publicité « Attention à nos enfants ». C'est peut-être le vôtre. Oui. C'est dans la revue « Liberté ». Ensuite, une autre manifestation du talent québécois dans le domaine du cirque. Le cirque surprise, c'est dans le Reader's Digest. Mais pour tout de suite, deux textes dans l'actualité. Ils sont des pages côte à côte. Sur l'humour et la politique, c'est Julie Dufort et Chantal Hébert qui soulignent les différences qui existent à cet égard au sujet de l'humour et de la politique entre le Québec d'une part et les États-Unis et le Canada anglais d'autre part. D'abord, le texte de Julie Dufort, qui s'appelle « Le pouvoir de l'humour ». Les futurs humoristes qui passent par l'École nationale de l'humour doivent suivre le cours « Humour et société ». Julie Dufort, jeune chercheuse en sciences politiques de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM, dont le doctorat porte sur l'humour vexatoire américain, donne ce cours. L'humoriste a une responsabilité sociale, selon elle. Même si Charlie Hebdo arbore fièrement la devise « journal irresponsable », l'humoriste n'a pas à s'auto-censurer, mais il doit être conscient des effets qu'il engendre dans la société. C'est un acteur politique. Je dis souvent à mes élèves qu'ils ont une capacité d'influence beaucoup plus grande que la mienne, parce qu'ils touchent un large public et un public détendu et très réceptif. Qu'ils parlent de pouvoir, de religion, de relations hommes-femmes, de minorité ou même de différence entre la ville et la banlieue, les humoristes posent un jugement sur la société et contribuent à modifier les normes et les valeurs. Une blague peut diviser autant qu'unifier. Si la plupart des journaux américains ont refusé de publier la une de Charlie Hebdo, représentant Mahomet, ce n'était pas par crainte des terroristes ni des tribunaux, mais en raison d'un phénomène d'autorégulation sociale. Elle dit « Le premier amendement de la Constitution américaine garantit la liberté d'expression et la liberté de presse, mais il garantit aussi la liberté de religion. Les Américains se définissent comme une nation d'immigrants et la tolérance entre les différentes communautés culturelles est très importante à leurs yeux, comme la religion occupe encore une grande place. » Le président prête serment sur la Bible. « On observe une forme d'autocensure dans tout ce qui touche les libertés religieuses. » Les humoristes québécois, eux, se censurent sur les conseils de leur avocat et aussi de leur comptable. En 1999, le talk show « Dieu reçoit » a été retiré des ondes après quelques épisodes sous la pression du lobby catholique. Jugeant l'émission blasphématoire ou simplement d'un goût douteux, des milliers de téléspectateurs se sont plaints non seulement du Conseil canadien des normes au Conseil canadien des normes de la radio-télévision et au diffuseur TQS, mais aussi au commanditaire principal, la brasserie de la Batte. Celle-ci a fini par laisser tomber l'émission dans laquelle un Claude Legault, vêtu de blanc, recevait des invités entre deux sketchs ridiculisant la religion. Aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises qui sont devenues quasi intouchables. Peu d'humoristes oseraient s'attaquer à Walmart, Molson avec un CCD, et Wagdo, comme RBO, Roca Belles Oreilles, le faisait à l'époque, note Julie Dufort. Autre texte, celui de Chantal Hébert, Lucien Bouchard et le prophète Mahomet. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais là, j'ai approfondi un peu. Quand la caricaturiste de l'Ottawa Sun, Sue DeWar, a dessiné un castor qui rongeait à belles dents la jambe artificielle de Lucien Bouchard en 1995, elle a reçu des centaines de menaces de mort. À l'évidence, ce ne sont pas ses lecteurs habituels qui ont proféré ces menaces. En cette année référendaire, le chef du Bloc québécois était la bête noire du reste du Canada. La caricature reflétait les sentiments d'une partie de l'opinion publique de l'extérieur du Québec. Lucien Bouchard n'est pas le prophète Mahomet, mais il n'est pas faux de dire qu'au milieu des années 90, bon nombre de Québécois, y compris bien des fédéralistes, lui vouaient un culte. Aux yeux de ses nombreux admirateurs, il marchait sur l'eau. Pendant les premières années qui ont suivi le drame médical qu'a vécu M. Bouchard, des expressions comme « partir du bon pied »,« s'enfarger dans les fleurs du tapis »,« trouver chaussures à son pied » ou encore « marcher sur des œufs » ont même régulièrement été bannis des textes des chroniqueurs qui couvraient ses activités politiques. Les sentiments qu'il inspirait dans le reste du Canada étaient d'un tout autre ordre. Si de grands médias anglophones ont tenté, pas toujours avec succès, d'éviter de se mettre au diapason du Sun, celui qui l'avait montré avec un castor lui dévorant la jambe de bois, d'éviter de se mettre au diapason du Sun, dis-je, c'est parce qu'il préférait ne pas exacerber des passions déchirantes pour le tissu politique et social du Canada. Sur le front des relations interculturelles, la culture médiatique canadienne fait une plus grande place à la rectitude politique que la québécoise. L'épisode récent de Charlie Hebdo a mis en évidence ce clivage. Les médias québécois n'ont pas hésité à diffuser des caricatures de Mahomet publiées par le journal satirique français. Dans le reste du Canada, on s'est abstenu. Pour les uns, la diffusion de ces dessins était indissociable de la couverture de l'événement. Pour les autres, cette même diffusion était plus susceptible d'alimenter l'intolérance et de heurter la communauté musulmane que d'éclairer le débat. On est ici davantage devant un cas de sensibilité différente que devant un débat à trancher au couteau. Cette différence est inspirée en partie par des valeurs culturelles américaines qui ont peu ou pas de prise sur les médias comme ceux du Québec qui baignent dans un environnement linguistique différent. Par exemple, récemment, le Globe and Mail a retiré l'expression « tar baby » du texte d'un ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis qui analysait les relations entre les deux pays sous le tandem Obama-Harper. Derek Burney faisait allusion au dossier des sables bitumineux. Mais dans la plupart des dictionnaires, on peut lire que l'expression « tar baby » est synonyme de situation engluante, mais aux États-Unis, elle a une connotation péjorative pour la population afro-américaine. Alors, ce sont des propos intéressants, l'humour et la politique. Dans l'actualité du mois de mars, signé ces deux textes, d'une part par Chantal Hébert, d'autre part par Julie Dufort.
Oui, alors, maintenant, professionnels immigrants, à vous la reconnaissance. Obtenir l'équivalence de ces diplômes ou la reconnaissance de ces compétences acquises à l'étranger relève du parcours du combattant. Une procédure longue et coûteuse qui en dissuade plus d'un. Bon nombre de professionnels immigrants, ingénieurs, médecins ou dirigeants, se laissent décourager et optent pour des emplois en dehors de leur expertise. L'exemple des chauffeurs de taxi hautement diplômés dans leur pays d'origine qui sillonnent les rues de Montréal est éloquent. Mais certains décident de se battre bec et ongles pour pouvoir obtenir un poste pour lequel ils sont qualifiés. C'est le cas des clients de l'Association communautaire d'emprunt de Montréal, l'ACEM, un organisme de financement communautaire responsable basé à Montréal. Son programme, Objectif Reconnaissance, offre aux nouveaux arrivants des prêts financiers à taux d'intérêt faible pour leur permettre d'obtenir ce qu'il faut pour occuper un emploi digne de leurs acquis antérieurs. Pour chaque candidat, le prêt peut s'élever jusqu'à un maximum de 10 000 $, un montant qui sert à couvrir les frais d'accréditation, la mise à niveau des compétences, les cours d'appoint, les frais d'examen des ordres professionnels, les frais de déplacement ou de subsistance, de garde ou de transport durant la période des cours ou d'examen. Depuis sa création en 2012, une bonne centaine de professionnels immigrants ont réussi l'exploit de travailler dans le métier pour lequel ils ont été formés sous d'autres cieux. D'autres professionnels sont actuellement en attente de reconnaissance de leurs compétences. C'est le cas d'Omar Amin, non fictif, 38 ans, installé au Québec il y a à peine 13 mois. Il étudie actuellement au Cégep Marie-Victorin pour pouvoir passer les examens et décrocher l'accréditation de l'Association canadienne de la paye. Le coût de sa formation s'élève à 2 800 $, un montant hors de sa portée, lui qui touche un salaire de 11,50 $ de l'heure, comme agent de saisie de données. Omar frappe d'abord à la porte de la Caisse des Jardins, qui le réoriente vers l'ACEM, sachant que son programme d'études ne peut être financé ni par Emploi Québec, ni par le système de prêts et bourses, il saute sur cette occasion. Ce qui m'a le plus encouragé est le taux d'intérêt qui est nettement plus abordable à l'ACEM, nous confie-t-il. Ajoutant que l'accompagnement et le suivi à travers des activités comme le réseautage, par exemple, l'ont conforté dans son choix. Marocain d'origine, Omar a exercé le métier de responsable des ressources humaines dans une grande compagnie au Maroc avant d'immigrer au Québec. Résigné à l'idée qu'il ne pourrait être en mesure d'occuper un poste similaire ici au Québec et sur recommandation de ses amis, il opte pour un métier connexe, celui de responsable de la paye. Pour ce faire, il doit avoir l'accréditation de l'Association canadienne de la paye. Un titre qui prend plusieurs cours pouvant s'étaler sur plus d'une année, ce qui n'est pas le cas pour le titre de gestionnaire des ressources humaines, qui est beaucoup plus long, précise-t-il. Après une présentation convaincante, le comité de crédit de l'ACEM lui accorde l'argent nécessaire pour mener à bien son projet. J'ai dû fournir des preuves et des documents solides pour justifier mon désir d'opter pour la paye plutôt que pour la gestion des ressources humaines. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ici, presque aucun patron ne confiera la gestion des ressources humaines à un immigrant nouvellement arrivé. Il faut au préalable résider ici pour une période suffisante et démontrer qu'on s'est bien intégré à la société, croit Omar. Ce n'était pas la même destinée ni le même succès pour Ib Imbrahima, un Ivoirien arrivé au Québec en mars 2014, après un long séjour en France. Devant la complexité du processus d'homologation de son diplôme d'ingénieur mécanique, il a dû abandonner le processus après avoir obtenu un prêt de 3 000 $. L'Ordre des ingénieurs m'a demandé de passer 11 examens pour la reconnaissance. Le hic, c'est que l'Ordre n'offre que 2 sessions par année. D'après mes calculs, ce n'est qu'en 2017 que je finirai le tout. Non merci, c'est trop long pour moi, explique Imbrahima, qui a entre-temps quitté le Québec pour l'Alberta. Ici, j'ai vite trouvé un emploi comme dessinateur industriel en à peine une semaine. Au Québec, je n'ai pas eu le même succès, poursuit-il. Loin de regretter son expérience avec l'ACEM, Imbrahima se dit confiant dans l'avenir. L'ACEM offre d'autres services comme l'entrepreneuriat. Si jamais je rentre au Québec, je vais les solliciter pour financer mon propre projet, conclut-il. Alors, Objectif Reconnaissance est donc un projet pilote initié par le gouvernement fédéral. Il vient d'être prolongé d'une année supplémentaire. On est parti de l'idée que le taux de chômage était beaucoup plus élevé parmi les immigrants, en comparaison avec les Québécois de souche. Le gouvernement fédéral voulait aussi étendre le microcrédit auprès de cette couche de la population pour voir si ça pourrait lui être utile, explique Indu Krimnasmurti, coordonnatrice du programme au sein de l'ACEM. À la fin de septembre 2014, 42 prêts ont été octroyés selon un rythme de 7 prêts par mois. On veut faire beaucoup mieux tout en étant conscient de ne pas trop endetter les candidats. Voilà, alors il y a 45% de clients d'Amérique latine, 35% d'Afrique, 10% d'Asie, 5% d'Europe et 5% du Moyen-Orient. C'était donc à vous la reconnaissance par Saïd El Adini dans l'itinéraire du 15 février 2015.
Jamais vu New York, j'ai souvent New York dans la tête. jamais vu Rio. Qu'un pain de sucre sur les cartes photos, je n'ai jamais vu Bangkok. Mais sur tes lèvres il y a des parfums de Chine, je n'ai jamais vu New York. Je n'ai jamais vu Delhi, mais j'ai rêvé aux plaines d'Ukraine. Je n'ai jamais vu Paris comme une flûte qui hante lointaine. J'ai jamais vu Djara, mais y a du Sahara dans ton souffle. J'ai jamais vu New York.
Daniel Lavoie et le grand chœur qui compte au moins à vue d'œil, là, au moins 500 choristes.
Oh, ça oui, c'est important.
C'est important, oui. Le Cirque Surprise par Hélène Debilly, c'est dans la sélection du Reader's Digest du mois de mars. Elle écrit ceci, brillant, original et énergique. Voilà les qualificatifs employés par la presse internationale pour désigner Timber. Un spectacle sur nos bûcherons d'antan signé le Cirque Alphonse, une compagnie composée de 8 acrobates et musiciens originaires de Lanaudière. Applaudi par des milliers de spectateurs sur 3 continents, la fresque parvient à saisir la joie qu'on peut éprouver à travailler avec des arbres, a suggéré le Guardian de Londres. À New York, le journaliste du Time Out est tombé sous le charme de ces Québécois complètement dingues, vêtus de camisoles et de peaux de castor qui jonglent avec des haches, cabriolent sur des billots, multiplient les numéros de barres rustres et s'élancent entre des cerceaux formés de scies bien aiguisées. Fondé par Antoine Carabinier-Lépine et sa sœur Julie, le Cirque Alphonse se présente d'abord comme une affaire de famille. Durant les spectacles, le public voit tournoyer au-dessus de sa tête pas moins de 3 générations de saltimbanques. Et cette année, la troupe s'est enrichie d'un deuxième membre préscolaire, avec l'arrivée de Jules, le petit frère d'Arthur, 3 ans, que sa maman, Julie Carabinier-Lépine, et son papa, Jonathan Cazobon, ont présenté un soir à la tombée du rideau au public attendri du NYU Skirball Center for the Performing Arts de New York. Âgée d'à peine quelques mois, Jules a même accompli sa première acrobatie en se tenant debout sur la main tendue de son papa. Cet esprit de corps n'exclut pas les aînés, qui, depuis le début, jouent un rôle fondamental. Tandis que le patriarche Alain vole souvent la vedette avec des numéros plutôt audacieux pour un homme de 68 ans, grand-maman Louise s'affaire en coulisses où elle gère la logistique, les subventions, voix au costume et à l'harmonie familiale. C'est elle qui travaille le plus dur, souligne Antoine à propos de sa mère. Mais le cirque Alphonse n'est pas que virtuosité et conte de fées. Derrière le folklore, on décèle une proposition de cirque très contemporaine, ainsi que des propos bien sentis sur la nécessité de préserver nos traditions. De fait, son succès repose avant tout sur l'authenticité. Conséquemment, la troupe a choisi de conserver tous ses textes en français, même si parfois le public de Londres ou de Hong Kong a un peu de mal à s'y retrouver. Un des atouts du clan réside dans son look 100% terroir. Barbu, musclé, poilu, les gars s'affichent comme de gros ours hilares et bon enfant. Quant aux filles, elles jouent la carte rustique avec pantalon de velours et chemise de flanelle, évidemment. Au début, on se censurait, rappelle Antoine Carabinier-Lépine. On craignait de tomber dans la caricature. On s'est rendu compte que plus on en mettait, plus les gens aimaient. L'histoire du cirque Alphonse a commencé en 2006 à l'occasion du 60e anniversaire d'Alain Carabinier, dit le patriarche. Né en Suisse, cet ancien champion de ski, a immigré au Québec il y a une trentaine d'années. Il y a marié Louise Lépine, une physiothérapeute originaire de Lanaudière. Le couple a eu deux enfants férus des arts de la piste. Julie étudiait la danse contemporaine et Antoine est diplômé de l'École nationale du cirque. Pour les 60 ans du Papou, ses deux enfants ont conçu un spectacle intitulé « La Brunante » sur le thème de la veillée québécoise. « Mon père, appelle Antoine, avait toujours rêvé de monter sur les planches. Le cirque Alphonse est donc né d'une volonté de le remercier de son soutien. Puis la troupe s'est dissoute et chacun est parti de son côté. Quand on a remis ça avec Timber, 4 ans plus tard, quelque chose s'est produit. On a trouvé notre personnalité. » Porté par des airs traditionnels et des compositions originales, Timber revient sur un chapitre oublié de notre histoire collective, la vie de chantier. Le spectacle, explique Antoine, était destiné à nos compatriotes. Si la troupe s'est produite dans une douzaine de villes au Québec, elle n'a pas réussi à percer dans les grands centres, tels Trois-Rivières et Québec, où le spectacle a dû être annulé faute de billets vendus, à part Montréal, où la Tohu a été d'un grand soutien. Au pied du mur, la troupe a tenté sa chance sur la scène internationale où son épopée sur les bûcherons a attiré l'attention des programmes de théâtre d'une trentaine de villes sur 3 continents. C'est ainsi que depuis 2012, le clan Carabinier-Lépine passe les 3/4 de l'année sur la route, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie, et ce n'est pas fini. À l'affiche dès le mois de juin à la Tohu, Barbu, son prochain spectacle, promet d'être l'affaire la plus surprenante de l'heure, si l'on en croit le journaliste Claude Deschênes, qui l'a vu en primeur l'été dernier. Le plus ironique, observe pour sa part le metteur en scène de Timber, Alain Francoeur, c'est que la reconnaissance internationale va nous permettre de venir enfin jouer à Québec.
Oui, nul n'est prophète en son pays.
Ah, dicton qui s'applique encore ici. Hein? Le cirque surprise, le cirque Timber, qui nous est proposé dans le Reader's Digest du mois de mars par Hélène Debilly.
Quelques brèves. La première, paquet de bonnes choses. Certains aliments peuvent grandement aider à diminuer le goût de fumée. Différentes études ont démontré que le lait, le yogourt, de même que les fruits et les légumes, modifient le goût de la nicotine au point de laisser une sensation désagréable au palais des fumeurs.
Tiens, tiens.
Résultat, l'envie d'allumer une cigarette disparaît totalement. Un autre truc, après avoir fumé, sucer un clou de girofle pour prolonger le goût de la nicotine dans la bouche, ce qui permettra de repousser le prochain clou de cercueil. À l'inverse, café, bière, vin, cola augmentent l'impulsion de fumer. On suggère de remplacer le paquet de cigarettes par un paquet de même taille, rempli de bâtonnets de carottes et de céleri, de fruits séchés, d'amandes, de petites gâteries qu'on apportera partout.
Bon, alors des brèves, des bons mots de chefs d'État américains. Ils sont très courts. Abraham Lincoln, à qui un journaliste disait « Vous avez un visage à deux faces », dit « Si j'avais deux visages, porterais-je celui-ci ?» En interrogation. Ronald Reagan a fait une déclaration assez étonnante ici. Là. Ça, on pensait que ça s'appliquait au Sénat, mais écoutez bien. « J'ai donné l'ordre d'être immédiatement réveillé en cas d'urgence nationale, même en plein conseil des ministres. » Ça veut tout dire. Le dernier, c'est de Bill Clinton qui disait « La présidence ressemble à la gestion d'un cimetière. Il y a beaucoup de monde en dessous de vous, mais personne n'écoute. »
Alors, est-ce indécent de s'occuper des animaux quand il y a tant à faire pour les humains ? Non. Le moine bouddhiste, végétarien, Mathieu Ricard, est catégorique. Il s'explique dans son plus récent ouvrage « Plaidoyer pour les animaux ». Selon ce qu'il rapporte, 70 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année pour nourrir le monde, ce qui constitue pour lui un zoocide devant lequel nous ne pouvons rester indifférents. Vouloir remédier à des massacres humains, tout comme la cruauté dans les abattoirs, les arènes de corrida et ailleurs, relève de la même bienveillance qu'il faut avoir envers tous les êtres sensibles sur cette terre, insiste l'émule du Dalai Lama. Pour lui, toute souffrance mérite d'être soulagée. Mmh.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Vous pensiez tout savoir sur votre famille, jusqu'à la découverte récente d'un secret préservé depuis longtemps.
Vous ne vous adressez pas à moi, là.
Pas vraiment. Faut-il le révéler ? Si oui, quand et comment ? Quelles peuvent être les répercussions ? Voici donc des conseils et stratégies par Jacqueline Simoneau. Toutes les familles ont des squelettes dans leur placard, mais il y a secret et secret. Une personne peut choisir de ne pas dévoiler certaines informations personnelles, un problème de couple par exemple, sans que cela nuise à la dynamique familiale. Tout le monde a droit à sa vie privée. Le secret de famille, c'est autre chose. Derrière eux se cachent des histoires malheureuses qui affectent directement ou indirectement plusieurs membres d'une même famille. Ils dissimulent entre autres l'homosexualité d'un parent ou d'un enfant, une faillite familiale, des dettes de jeu du père, la maladie mentale d'un grand-père, l'enfant né d'un adultère ou donné en adoption. Ou pire, un inceste, un viol, de la violence conjugale. Souvent, le secret n'est connu que d'un ou deux membres du clan. Il peut aussi arriver que les parents et la fratrie soient au courant d'un fait, un frère emprisonné par exemple, mais qu'ils s'entendent pour le cacher aux autres. À vrai dire, ce phénomène n'épargne personne, pas même les gens célèbres. L'acteur Jack Nicholson a découvert que sa sœur était en réalité sa mère et que celle qu'il appelait maman était en réalité sa grand-mère. L'auteur Alexandre Jardin révélait dans « Des gens très bien » le passé secret de son grand-père Jean, qui fut à 38 ans le principal collaborateur du plus collabo des hommes d'État français Pierre Laval de 1942 à 1943. À ce titre, l'aïeul géra politiquement divers dossiers d'importance, dont une rafle qui livra carrément aux Allemands 12 800 juifs. Et ce n'est qu'à la mort de sa mère adoptive, que Lise Dion a appris, en trouvant des documents dans le coffret bleu qu'elle lui avait été jusqu'alors interdit d'ouvrir, que celle-ci avait notamment été religieuse. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser les gens à cacher certains pans de leur vie ? La plupart agissent ainsi par honte ou par culpabilité. D'autres le font par désir de protéger un proche. D'autres encore par peur de blesser, de décevoir ou d'être jugé, si ce n'est par peur des conséquences, comme le mari infidèle qui craint de perdre sa femme ou d'être rejeté par la famille. Il y en a qui craignent d'entacher l'image familiale ou de susciter les candidats. Toutefois, un fait demeure. Il y a toujours eu des secrets de famille et il y en aura toujours. La libération des mœurs de la sexualité et de l'emprise de la religion a fait en sorte que certains événements que l'on jugeait autrefois inacceptables ne le sont plus. On ne cache plus un divorce, une adoption ou une grossesse à 15 ans. Mais d'autres tabous ont la vie dure. Par exemple, l'homosexualité, la pédophilie, la maladie mentale, la toxicomanie, la violence conjugale ou l'inceste. Les conséquences du silence. « Mon père est mort quand j'avais 5 ans », se souvient Michel. On m'avait dit qu'il était décédé durant un long séjour en France pour affaires. En vieillissant, j'avais beau questionner ma mère, elle restait évasive sur cet épisode. Parfois même, elle s'emportait lorsque je devenais insistant. Je savais qu'elle me cachait quelque chose, mais j'ignorais quoi. Finalement, j'ai appris la vérité à la suite d'une indiscrétion d'un oncle. Mon père s'était suicidé en prison. J'en ai longtemps voulu à ma mère de m'avoir menti. Quelles que soient les précautions prises, les membres du clan finissent tôt ou tard par soupçonner un mystère. Plusieurs éléments les mettent sur la piste. L'anxiété des parents, les tensions entre certains proches, des malaises lorsqu'on aborde certains sujets, des phrases entendues ici et là, des conversations interrompues, des chuchotements, des propos contradictoires. Ces comportements laissent supposer qu'il y a anguille sous roche. De là à se créer mille et un scénarios, parfois pire que la réalité, il n'y a qu'un pas. Pourtant, en famille, chacun continue à faire comme s'il ne se rendait compte de rien. La loi du silence est respectée. Les secrets de famille peuvent être en partie responsables de conflits familiaux, de troubles affectifs, de phobies. Et quand ils résultent d'événements particulièrement douloureux, comme abus sexuels, violences, actes criminels, suicide d'un proche, les conséquences risquent d'être encore plus dramatiques. Elles peuvent mener à la délinquance, la toxicomanie, l'angoisse chronique, la dépression et le suicide. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes sont psychologiquement et émotionnellement plus fortes que d'autres. Mais il est difficile de prévoir qui sera à l'abri des répercussions. Faut-il tout révéler ? Pas à tout prix. Cela dépend de la teneur et de l'importance que vous accordez au secret découvert. Si vous apprenez que votre sœur s'est mariée alors qu'elle était enceinte, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Par contre, tous les secrets qui menacent l'intégrité d'une personne, inceste, violence conjugale, pédophilie, doivent être rapidement dénoncés. Pour le reste, à vous de voir. Prenez le temps de peser le pour et le contre, d'évaluer le choc de la révélation, les conséquences de cet aveu sur vous et votre famille, mais aussi sur les générations futures. Donc, avant de vous lancer, analysez la situation. Risquez-vous de faire du tort ou du mal à quelqu'un ? De provoquer un malaise profond, d'être rejeté par les autres membres de la famille qui préfèrent ne pas savoir, d'être accusé de déterrer des histoires anciennes, comment vous sentirez-vous une fois le secret révélé ? Un soutien psychologique peut s'avérer alors précieux. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas gérer tous les malheurs passés de votre famille, en revanche, vous pouvez prendre votre destin en main. La découverte d'un secret et sa révélation, s'il y a lieu, vous permettront peut-être de mieux comprendre certains de vos comportements ou ceux de vos proches, et sans doute de guérir plus facilement de vos blessures. Déjà pas mal. Voilà, c'était « Ah, les secrets de famille » par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge de mars 2015.
Alors, Franceline, est-ce que vous pourriez nous répéter, est-ce qu'on a bien compris ce que vous avez dit au sujet de Jack Nicholson?
Oui, celle qu'il croyait être sa sœur était en réalité sa mère.
Sa mère?
Oui, et donc, celle qu'il appelait maman était sa grand-mère.
C'est
un vrai secret de famille, ça.
C'est quelque chose. Bon, alors moi, je me tourne vers quelque chose de plus sérieux, de très, très sérieux. Le numéro 307 de la revue Liberté, le numéro du printemps 2015, consacre son dossier au féminisme sous le titre « La moitié du monde, comment le féminisme pense la société ». Alors, Liberté publie dans ce dossier 7 regards de femmes pour éclairer le présent, ainsi qu'un entretien avec Francine Pelletier, de La vie en rose à aujourd'hui. Je vous propose un de ces regards de femmes, celui de Anne-Lynn Roussel. Attention à nos femmes, c'est peut-être la vôtre. Je vous lis des extraits de ce texte. Alors, attention à nos enfants, c'est peut-être le vôtre. Voilà ce qu'on peut lire sur les panneaux routiers en se baladant dans nombre de zones résidentielles du Québec. L'intention est claire. On cherche à inciter les automobilistes à ralentir, mais comment s'y prend-on? Oublions l'illustration grotesque d'un bambin renversé par une voiture pour se concentrer sur le message lui-même. Est-il vraiment nécessaire d'évoquer un deuil personnel pour susciter une prise de conscience chez le conducteur pressé? L'accident serait-il plus grave si la victime lui était apparentée? Au lieu d'encourager une réelle compassion envers autrui, ce panneau nous réconforte dans le vieux réflexe de voir le monde en fonction de nos propres intérêts. Les politiciens utilisent souvent un procédé similaire pour convaincre l'électorat qu'ils sont préoccupés par son bien-être. Ils parlent de la formation de notre main-d'œuvre, de la protection de nos cours d'eau, de l'intégration de nos immigrants, privant à travers leur discours ces entités d'une existence propre. Ils les condamnent ainsi à n'avoir pour fonction que celle de graviter autour du citoyen régnant au centre de son univers. Le pouvoir est au cœur de cette tactique, qui consiste à attribuer le rôle de sujet, conférant aux éléments extérieurs la position d'objet qu'on s'approprie. Et grâce à cette approche, l'électeur se sent partie prenante du processus décisionnel. Une des préoccupations du féminisme est de faire en sorte que les femmes soient intégrées au « nous » des politiciens. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs féministes américains aient sursauté en entendant ces mots d'Obama. Nous savons que notre économie est plus forte quand nos épouses, nos mères et nos filles peuvent vivre leur vie sans discrimination au travail et sans craindre la violence conjugale. Par cet argument, le président s'adresse clairement à un « nous » masculin, excluant l'autre moitié de la population pourtant concernée au premier chef. Cette formulation provoque un glissement qui a pour effet de situer le problème dans une perspective strictement masculine. Obama est pourtant, sans conteste, le président le plus pro-femme que les États-Unis aient connu. Les Américaines lui doivent des mesures importantes d'équité sociale, salariale plutôt, et d'accès aux soins médicaux. Il a de la même manière toujours défendu Parenthood, un organisme qui offre des services en santé reproductive, et ce malgré les pressions des républicains qui aimeraient qu'on lui coupe les vivres. Le jour où il a prononcé son allocution, afin de convaincre le Congrès d'adopter deux nouvelles dispositions en matière de droits des femmes, soit le Violence Against Women Act et le Paycheck Fairness Act, Obama devait donc se faire persuasif. Bien que son intention ait été louable et son initiative couronnée de succès, ses propos, en plus de maintenir les femmes à l'écart, véhiculent un stéréotype qui a la peau dure. C'est d'abord par rapport aux hommes que l'identité de la femme se définit. Cette vieille conception de la place des femmes trouve encore écho dans notre façon de les dépeindre dans les médias. Même une politicienne d'envergure ou une athlète de haut niveau est trop souvent ramenée à son rôle de conjointe ou d'objet relationnel, et ses accomplissements personnels, aussi impressionnants soient-ils, relégués au second plan. Hillary Rodham Clinton, ex-secrétaire d'État et candidate pressentie aux prochaines primaires présidentielles, est récemment devenue grand-mère. Plusieurs journalistes ont fait grand cas de cette nouvelle, se demandant candidement comment la venue d'une petite fille allait perturber sa campagne lors de la course à la chefferie du Parti démocrate. Dans la même tonalité, lorsqu'interviewée sur le court des internationaux d'Australie immédiatement après sa victoire contre Anna Ivanovitch, la joueuse de tennis Eugénie Bouchard s'est fait demander, au nom de ses fans masculins évidemment, avec quelle célébrité elle aimerait bien sortir. Le panneau de circulation « Attention à nos enfants », s'il distille une bonne dose de cynisme, a au moins le mérite de souligner à gros traits notre difficulté à ressentir l'empathie de manière collective, comme si une société n'était rien de plus que la somme des individus qui la composent. Selon cette conception, toute amélioration du sort d'une personne ne peut se faire que de façon individuelle. Le premier ministre du Canada, Stephen Harper, qui refuse obstinément de tenir une commission d'enquête sur la disparition de centaines de femmes autochtones, le démontre, en affirmant qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène sociologique, mais de simple criminalité. C'est donc par une série d'enquêtes policières individuelles que le gouvernement compte s'attaquer au problème. L'empathie qu'on pourrait ressentir pour ces femmes en raison de leurs conditions d'existence commune est dissoute dans le cas par cas. Leurs souffrances n'ont plus aucune signification politique puisque, tirées de tout contexte, elles relèvent dès lors du personnel. Aborder un problème social de façon strictement individuelle est une aberration. Ce n'est pas en vivant l'indignation et l'empathie que dans le privé que nous arriverons à améliorer la condition des femmes en tant que groupe. Les intégrer au « nous » implique qu'elles deviennent leur propre sujet, que le discours ambiant cesse de les percevoir comme patrimoine de l'homme. Dans le deuxième siècle, paru en 1949, Simone de Beauvoir écrit « La femme se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. » L'image de la femme patrimoine renforce ses rôles, même si on y a recours pour sensibiliser les hommes aux difficultés que vivent les femmes. Il y a lieu de douter que cette approche suscite chez eux une réelle empathie. Elle les encourage plutôt à entrevoir le monde à partir d'eux-mêmes et incite les femmes à se définir en fonction des autres. Anne-Line Roussel signe ce texte dans La Liberté. Attention à nos femmes, c'est peut-être la vôtre.
Oui, il y a encore du chemin à faire.
Oui, oui.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Ils s'emparent de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son âme. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la veilleuse. Gentleman cambrioleur a gagné les cœurs. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Alors et maintenant, le Québec ludique par Stéphanie Morin dans le cahier Pause de la presse en février 2015. Les Québécois ont toujours été friands de jeux. Jeux de cartes jadis, jeux vidéo plus récemment, jeux télévisés au petit écran. Depuis 5 ans, toutefois, ils sont de plus en plus nombreux à craquer pour les jeux de société. Pourquoi ? En raison du mot « société », justement. Les gens en ont assez d'être assis devant des écrans. Ils veulent des contacts humains. Il ne reste plus que les jeux de société et le repas pour se réunir et échanger. Difficile de donner tort à Joël Gagnon, grand amateur de jeux de société et copropriétaire du pub ludique Randolph à Montréal. À l'heure des chaînes de télé spécialisées, chacun devant son émission, du sport écouteurs sur les oreilles et des jeux vidéo, les occasions d'interaction sociale et en particulier familiale se raréfient. Du coup, plusieurs Québécois ont intégré les jeux de société à leurs loisirs. Dans le lot, beaucoup sont âgés de 20 à 40 ans et sont d'anciens adeptes du jeu vidéo qui sont devenus parents. Leur engouement a fait grimper en flèche au Québec les ventes de jeux depuis 5 ans. Et les boutiques spécialisées ne sont plus les seules sur le marché. Martin Tremblay, vice-président aux affaires publiques chez Québecor, confirme « Depuis 4 ans, la surface consacrée aux jeux de société a doublé dans les magasins Archambault et la demande reste en forte croissance ». Plus attrayant, il faut dire que les jeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Depuis 1995, les jeux dits contemporains ont complètement révolutionné la façon de jouer. Les dés, les faux billets du vieux Monopoly, ils ont été remplacés par des figurines colorées, des planches de jeu en 3 dimensions qui se transforment d'une partie à l'autre. Les thématiques se multiplient, zombies, Far West, pirates, Inca. Le graphisme est hyper léché, les parties sont plus conviviales. En clair, les jeux de confrontation, guerrière ou financière, ne sont plus les seuls sur les tablettes. On peut par exemple opter pour des jeux coopératifs où il faut s'entraider pour gagner. Ces jeux créent une interaction très riche, très positive entre les joueurs, dit Joël Gagnon. Les Québécois aiment particulièrement les jeux d'ambiance, ceux qui font monter les décibels autour de la table et où le gagnant importe moins que l'ambiance qui se crée. Marc Baudouin, directeur des opérations chez le distributeur ILO 307, dit « Il y a aussi une grande demande pour les jeux courts aux règles simples. Ce sont des bons moyens d'initier ceux qui sont réfractaires aux jeux de société. » Les jeux pour enfants ont aussi évolué depuis 20 ans pour devenir plus attrayants, plus rigolos, éducatifs sans être barbants. Les parents sont de plus en plus nombreux à chercher des jeux spécialisés, plus intéressants que les jeux en série « Made in China ». Explique Marc Bolduc, copropriétaire de la boutique Le Valet de Cœur et de distribution Le Valet. D'ailleurs, les jeux pour enfants représentent 25% de nos ventes à la boutique. L'abondance des jeux offerts peut toutefois donner le tournis à qui pose le pied pour la première fois dans cet univers. Depuis 2009, les prix 3 lys sont remis chaque année aux meilleurs jeux de société distribués au Québec. Catherine Goldschmidt, fondatrice des 3 lys, explique « Le prix a été créé pour servir de guide aux consommateurs. Chaque année, le jury teste environ 150 jeux pour déterminer les finalistes et les gagnants dans 3 catégories, jeux pour enfants, jeux grand public et jeux pour passionnés. Seuls les jeux édités en français et dont le nom de l'auteur est clairement indiqué sur les boîtes sont admissibles. » Et les bibliothèques s'y mettent. La déferlante des jeux de société a aussi gagné les bibliothèques de Montréal. La totalité des 45 bibliothèques du réseau dispose de jeux de société que les membres peuvent utiliser sur place. Une 30aine d'établissements ont investi dans des jeux contemporains, en particulier depuis les 4 dernières années. Les usagers, surtout les jeunes et les familles, ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Louise Guillemette-Laborie, directrice associée de Bibliothèque de Montréal, raconte « À Montréal-Nord, après les émeutes de 2008, nous cherchions un moyen d'attirer davantage les jeunes à la bibliothèque. On a décidé d'offrir une soirée de jeux. On attendait 50 personnes, il en est venu 150. Maintenant, on propose 2 soirées de jeux par semaine. Pour l'instant, seulement 5 bibliothèques du réseau offrent le prêt de jeux de société, mais on a la volonté d'élargir ce service, dit Madame Guillemette-Laborie. Nous voulons aussi aménager dans certaines bibliothèques des espaces de fabrication et de création de jeux. Qui sait, les jeux vedettes de demain pourraient y voir le jour. » Et maintenant, 4 activités à faire pendant la semaine de relâche. Profitez de la semaine de relâche pour aller jouer dehors avec les enfants. Faire du sport, c'est bon pour la santé. et les choix d'activités sportives extérieures ne manquent pas. En voici quatre qui combleront petits et grands. D'abord, le patin à glace. En plus d'être l'une des activités hivernales les plus amusantes et récréatives qui soient, elle est l'une des plus accessibles puisqu'on trouve des patinoires gratuites ou presque partout dans la province.
La glace est très belle actuellement.
Oui, oui. De plus, cette activité convient autant aux débutants qu'aux experts. Aménagée en ville, dans des parcs, sur des rivières glacées, des lacs gelés ou dans des centres de villégiature, les patinoires ont tout pour plaire aux familles. Certaines d'entre elles offrent même un service de prêt de patins et un service d'aiguisage. Qui plus est, patiner dehors vous fera bouger, en plus de vous faire prendre une bonne dose d'air frais. Deuxième activité, la glissade. La glissade est une activité hivernale très populaire au Québec. Qui n'a pas un jour dévalé une pente sur un traîneau, un tapis luge, les crazy carpets ou un tube à air. Très accessible, cette activité se pratique un peu partout dans la province. Avec ou sans infrastructure aménagée, bon nombre de municipalités comptent en effet des pentes naturelles où petits et grands peuvent aller glisser. Il existe aussi plusieurs centres qui offrent la possibilité de s'élancer du haut d'une côte sur une chambre à air ou même dans un canot pneumatique. À vous de les découvrir ou de les redécouvrir en famille. Fou rire garanti avec les enfants. Troisième activité, la raquette. Chaussez vos raquettes et partez à l'aventure sur les sentiers enneigés du Québec avec vos chérubins. Que ce soit à proximité de votre lieu de résidence ou sur l'un des sentiers mis à votre disposition dans des parcs nationaux ou des stations de ski, ce sport de plein air, accessible à toute la famille, vous permettra d'apprécier la beauté des paysages hivernaux. De plus, certains centres de raquettes offrent des activités spéciales pour la semaine de relâche, comme la raquette au flambeau, des randonnées d'orientation en raquette. Certains d'entre eux proposent aussi le service de location de raquettes. Enfin, le ski de fond. Profitant d'un enneigement considérable, le Québec est riche d'innombrables sentiers destinés aux amateurs de ski de fond. De plus, cette activité constitue certainement l'un des meilleurs moyens pour vivre l'hiver et ses paysages chargés de neige. Pourquoi ne pas profiter de la semaine de relâche pour aller faire du ski de fond avec vos enfants ? Voilà en effet une belle occasion de passer de bons moments en famille. Vous n'avez pas d'équipement de ski de fond ? Pas de problème. Plusieurs établissements et détaillants d'articles de sport en louent. Soyez prévoyants. Quand vous pratiquez des sports d'hiver en famille, n'oubliez pas de vous vêtir adéquatement selon l'activité choisie et les conditions météorologiques et de prendre certaines mesures de précaution, comme porter un casque par exemple. Si vous partez pour plusieurs heures, pensez également à apporter de l'eau, un lunch nutritif, des collations santé et de la crème solaire. Et oui, même en hiver, oui, le soleil est là. C'était donc dans la Presse Plus du 2 mars, donc d'aujourd'hui.
Dans les brèves, je vous lis un des mots pour rire qu'on retrouve dans les sélections du Reader's Digest. Là. Celui-ci est particulièrement intéressant. Un psychologue pour enfants avait des jumeaux. L'un était optimiste, l'autre pessimiste. Pour voir ce qui se passerait le jour de leur anniversaire, il remplit la chambre du pessimiste de jouets et celle de l'optimiste de crottins de cheval. Le soir, le père trouva le pessimiste au milieu de ses cadeaux en pleurs. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « J'ai des dizaines de manuels de jeux à lire, j'ai besoin de piles neuves et mes jouets finiront tous par se casser, » sanglota l'enfant. En passant devant la chambre de l'optimiste, le père le trouva dansant de joie autour du tas de fumier. « Pourquoi es-tu si heureux ?» s'enquit-il. Le garçon répondit, « Il doit forcément y avoir un poney caché quelque part.
» C'est vraiment de l'optimisme.
Oui.
Pour ajouter à aux activités dont je vous parlais tout à l'heure, glisser autrement, on peut utiliser la trottinette des neiges. Elle arrive ici, au Québec. Elle vient de la Finlande. Ce sport excitant peut enfin être pratiqué chez nous. Pour vivre une expérience de glisse différente cet hiver, on se retrouve sur les sentiers de neige qui offrent cette activité dans la région de votre choix. C'est donc la trottinette des neiges.
La trottinette des neiges, ben oui, pourquoi pas. En techno, un grand saut de puce. IBM a franchi une nouvelle étape dans la mise au point d'une puce électronique d'une conception révolutionnaire qui pourrait consommer jusqu'à 100 000 fois moins d'énergie que les puces existantes tout en étant beaucoup plus puissante. Son dispositif, encore expérimental, pourrait donner à un téléphone intelligent les capacités actuelles d'un superordinateur. Baptisée Synapse, la puce est faite d'un nombre record de 5,4 milliards de transistors connectés entre eux par des synapses électroniques à la manière des neurones du cerveau. Ouf, où est-ce qu'on va s'arrêter là-dedans? Alors, c'était le Kiosque Magazine de ce lundi 2 mars. C'est le volet culture et société que nous vous avons proposé. Franceline Nieuviard, Roger Roy et en régie Rémi Hermoso, nous avons été heureux de vous accueillir et nous vous disons...
À la semaine prochaine.
Au revoir.